Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. En ce moment se déroule à Tours le congrès de la Société française de pédiatrie et de l'Association des pédiatres de langue française. L'occasion pour nous dans Priorité Santé de parler des avancées en pédiatrie, des échanges nord-sud dans ce domaine. Et aujourd'hui d'ailleurs on a décidé de mettre l'accent sur la vaccination, diphtérie, tétanos, polio, BCG, méningite, mais aussi rougeole, oreillon, rubéole, hépatite B. Finalement, quels sont les vaccins indispensables? On estime qu'encore aujourd'hui dans le monde, 24 millions d'enfants qui naissent chaque année n'ont pas reçu la totalité des vaccins prévus pendant la première année de vie, c'est-à-dire un enfant sur cinq. Ils sont donc exposés à des maladies dangereuses, mortelles, en cause le manque de ressources, la défaillance des systèmes de santé, les conflits, mais aussi l'exclusion sociale et géographique. Pourtant, les vaccins sauvent déjà chaque année la vie de 2 à 3 millions d'enfants. On en parle aujourd'hui avec le docteur Robert Cohen, qui est pédiatre, infectiologue au CHU de Créteil, en région parisienne, coordonnateur du réseau d'information sur les vaccins, InfoVac. Également avec lui le docteur Saïd Afif, qui est président d'InfoVac Maroc, président de l'association des pédiatres privés à Casablanca et vice-président de l'association des pédiatres de langue française. Vous pouvez bien sûr nous appeler si vous avez envie de leur poser des questions au 33 1 84 22 75 75. Et en fin d'émission, exceptionnellement pour un mercredi, on retrouvera la chronique du docteur Catherine Solano. Docteur Robert Cohen et docteur Saïd Afif, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux en direct de Tours, dans les studios de France Bleu Touraine, et bien tout simplement parce que justement ce congrès se déroule à Tours. Docteur Robert Cohen, quel est l'objectif d'un congrès comme celui-là? Faire le point sur les avancées?
Oui, effectivement, c'est très important. La pédiatrie a diverses facettes, diverses sous-spécialités, et c'est très important que les pédiatres de langue française de différents pays puissent se rencontrer, échanger, et on peut dire que dans chaque spécialité, les avances sont extrêmement rapides, dans chaque sous-spécialité, et c'est très important de pouvoir le faire le point une fois par an, et c'est bien le but de ces congrès-là.
Et docteur Afif, vous qui venez du Maroc, pourquoi c'est important pour vous d'être présent à un tel congrès?
C'est important parce que en étant médecin et pédiatre, il faut, et c'est obligatoire même, d'avoir une formation médicale continue qui soit à la hauteur. Et en plus, ça nous permet, en tant que pays de langue française, d'échanger avec nos collègues français et puis des autres pays de langue française, africaine, et puis le Liban et la Syrie, et de pouvoir avancer ensemble. Donc, c'est très important et enrichissant pour améliorer notre pratique quotidienne. Alors et donner le meilleur de nous-mêmes, oui, à nos patients.
Aujourd'hui, on a décidé de parler plus spécifiquement des vaccins, hein, même si vous verrez dans les questions d'auditeurs, je dirais, on abordera aussi d'autres questions. Ces vaccins, vous allez évidemment en parler pendant ce congrès. Et peut-être un mot d'abord, docteur Robert Cohen, sur ce qu'est InfoVac, ce réseau d'information sur les vaccins.
Alors, InfoVac a été créé il y a une petite quinzaine d'années maintenant, parce que le nombre de vaccins qui étaient proposés à nos enfants et à nos adultes était en augmentation, rendant la situation de plus en plus difficile, de plus en plus compliquée. Ensuite, on a de plus en plus de malades qui sont des cas particuliers, parce qu'ils reçoivent des traitements, des chimiothérapies, parce qu'ils sont des grands prématurés, donc il y avait énormément de questions autour de la vaccination, et en plus, au fur et à mesure des années, du fait même des succès de la vaccination, les polémiques vaccinales se sont installées dans différents pays, puisque les vaccins marchaient tellement bien qu'on se posait la question toujours d'effets indésirables, et on se rend plus tellement compte du bénéfice que ça apportait. Par contre, quand il y a un effet indésirable, ben il est mis en exergue. Donc c'était pour répondre à ces attentes-là que nous avons créé InfoVac, d'abord en Suisse sous l'influence de Clarence Sigrist, puis en France, puis au Maroc, puis maintenant InfoVac existe aussi en Hongrie.
Alors justement, vous l'avez évoqué, la vaccination a permis de grands progrès. Quels sont ces progrès très précisément dus à la vaccination?
Alors, on sait tous que en dehors du renforcement des mesures d'hygiène et en particulier de la sécurité de l'eau et de l'hygiène de base, que ce qui a sauvé le plus de vies dans le monde, c'est la vaccination. Et c'est en millions d'essais, de séquelles préventues tous les ans. Parmi ces maladies, tout le monde connaît la diphtérie. La diphtérie, c'était une grande tueuse. Tout le monde connaît la polio, enfin, de nom, hein. Mm. Tout le monde connaît la polio. Et en fait, après, on s'est posé d'autres problèmes de santé publique. On s'est aperçu que, par exemple, que les méningites à hémophilus représentaient des centaines de cas dans chaque pays. On peut dire donc des dizaines de milliers de cas, des centaines de milliers de cas dans le monde. On s'est aperçu des vaccins de l'hépatite B que tuaient des millions de personnes aussi dans le monde, y compris dans les pays à niveau socio-économique élevé et des pays en voie de développement. Donc tout ça a fait que on s'est aperçu que point par point, qu'il n'y avait pas beaucoup de techniques aussi efficaces que la vaccination pour ça. Et quand, par exemple, la crise du d'Ebola arrive, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne tout de suite en disant, mais il nous faut absolument un vaccin. Il nous le faut sur le champ.
Et sur le sida, on n'arrête pas de répéter, mais pourquoi on ne trouve pas un vaccin?
Sur le sida, visiblement, on attend toujours. Puis c'est un problème probablement un des plus compliqués pour ça, mais on a beaucoup plus d'espoir pour les vaccins Ebola, par exemple. Donc on sait bien où la dengue qui prend un essor mondial en Afrique, en Amérique, etc., on sent qu'on a besoin d'un vaccin.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on est un peu paradoxal. On a envie de critiquer les vaccins, et avec ça, dès qu'il y a une nouvelle maladie qui apparaît, on dit on voudrait un vaccin.
Oui, le paradoxal est un mot presque trop modeste. Voilà. Presque trop modeste. Tout ce qui est acquis, on ne veut plus entendre parler, et tout ce qui est nouveau, on veut une réponse vaccinale immédiate. Or, les vaccins, c'est tout sauf l'immédiateté. Et c'est un petit peu notre difficulté. On vit dans un monde de l'instantanéité et nous, on vous propose du long terme, de vous protéger à long terme. C'est notre message est difficilement audible parce que on répond pas. C'est pas une, on prévient à long terme, on prévient pas à court terme. Hein, ça, c'est clair.
Et c'est entre autres le cas de l'hépatite B, par exemple.
Exactement.
Docteur Saïd Afif, alors si on prend l'exemple, par exemple, du Maroc, puisque vous y êtes, est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de vies que ça a permis de sauver?
Nous, on a un calendrier vaccinal qui n'a rien à envier aux pays développés, et ça, de la confirmation de mon ami Robert Cohen. Et nous, l'État marocain s'est engagé à assurer la vaccination gratuitement pour l'ensemble des enfants, ce qui est quand même énorme. Et là, vous parliez au début du prix des vaccins. Il faut savoir qu'il faut qu'on aille tous, ce qui est fait au Maroc, vers un appel d'offres pour l'ensemble, et ça permet de diminuer les prix à des proportions qu'on ne peut pas imaginer. Nous, par exemple, nous n'avons plus enregistré de cas de polio depuis 1987, plus de cas de diphtérie depuis 1991, et on a éradiqué aussi le tétanos néonatal en 2002. Chose aussi parce qu'on avait un problème avec la rougeole. Il y a une année, nous avons fait une campagne, l'État marocain a fait une campagne qui a permis de vacciner 11 millions de personnes.
Et justement, si on prend dans le monde, hein, les décès dus à la rougeole ont chuté de plus de 70% dans le monde entre 2000 et 2011. Donc on comprend bien, hein, la vaccination permet de diminuer le nombre de décès. Docteur Saïd Afif, est-ce que vous avez aussi des chiffres sur la couverture vaccinale effective au Maroc, justement sur les enfants?
On a la couverture effective du Maroc, puisqu'on a plus de 5000 centres de vaccination à travers les centres de santé de base. C'est l'équivalent de la PMI chez vous.
Mais au bout du compte, combien? 90% des enfants sont vaccinés?
Vous dépassez les 95%.
Vous dépassez les 95%.
Oui, parce qu'on a des personnels itinérants et tout ça. Donc, il y a un engouement. Nous avons cette chance au Maroc. C'est que comme la vaccination est assurée par l'État à plus de 95%, le privé vaccine seulement 5%. On a cette chance-là. C'est qu'il y a une bonne couverture et qu'il y a un engouement. Et le problème de la polémique au niveau des vaccins et tout ça vient, c'est vrai, de l'Internet et tout ça. Et c'est pour cela qu'on est, heureusement et malheureusement, lié à la France. Et c'est pour cela qu'on demande
à cause de la francophonie.
Nous sommes liés, nous avons une histoire commune, nous sommes liés, là n'est pas le problème. Maintenant, nous demandons aux autorités comme ce qui est fait au Maroc, aux autorités sanitaires de France, de prendre leurs responsabilités, de discuter avec les experts et de répondre aux allégations pour ne pas faire fructifier la Ligue anti-vaccin.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la santé des enfants à l'occasion d'un congrès qui se déroule en ce moment à Tours, le congrès de la Société française de pédiatrie et de l'Association des pédiatres de langue française. On est en train de parler de vaccination. Docteur Robert Cohen, ça vous fait envie les chiffres que donne le docteur Saïd Afif sur 95% des enfants vaccinés? Je crois que c'est pas ça en France.
Alors, vous avez raison, on envie les Marocains pour leur taux de couverture vaccinale, mais ce que je voudrais dire, c'est que la couverture vaccinale en France est surtout disparate. C'est-à-dire, il y a certains vaccins qui sont très très bien faits. Par exemple, les vaccins de la petite enfance, on a des taux de couverture vaccinaux qui sont corrects. Mais plus on avance en âge, plus ces taux de couverture vaccinaux diminuent. Aujourd'hui, les taux de couverture vaccinaux pour la diphtérie, le tétanos, la polio, etc., dépassent 95%. Même pour la rougeole, on arrive à des chiffres qui sont raisonnables pour la première dose, pas complètement raisonnable pour la deuxième dose. Mais donc, notre vrai problème, c'est au-delà de ça et tout ce qui, les bruits qui tournent autour de la vaccination. Mais jusqu'aux chiffres d'il y a quelques mois, nos chiffres de vaccination n'étaient pas si mauvais que ça pour les nourrissons. Après, ça devient bien, bien moins bon, voire très, très mauvais pour l'adolescent.
Justement, est-ce que vous voulez bien rappeler les vaccins qui sont indispensables et qui sont faits pendant l'enfance et puis ceux dont il faudrait un rappel justement à l'âge adulte, et c'est là où on est moins bon?
Voilà. Alors, j'aime beaucoup le terme indispensable, parce que on a parlé beaucoup pendant longtemps de vaccins obligatoires, qui est un terme qu'on n'aime pas, parce que c'est une notion de contrainte qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Les vaccins obligatoires, ce sont ceux qui ont un impact en santé publique sur la mortalité ou la morbidité qui est importante. Alors, c'est tous les vaccins classiques, c'est la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, les différentes méningites, parce qu'aujourd'hui on vaccine contre différentes méningites, bien entendu la rougeole, les oreillons et la rubéole, et parmi ces rougeoles, oreillons, rubéoles, faut pas se tromper, c'est la rougeole qui tuait, et qui était un grand, grand, grand tueur, et qui reste un grand tueur d'enfants, mais avant c'était des chiffres, avant la vaccination, c'était 5 millions de morts par an liés à la rougeole. Hein, donc et maintenant, est venu s'ajouter à ça les vaccinations contre l'hépatite B, plus contre d'autres maladies. Généralement, tous ces vaccins, soit ils surviennent que chez l'enfant, par exemple c'est le cas des méningites à hémophilus, qui surviennent que chez le petit, donc ça n'a pas besoin de rappel. Mais pour tous les autres vaccins, des rappels sont utiles. Donc, c'est pas parce qu'on a été vacciné dans l'enfance contre diphtérie, tétanos, polio et coqueluche qu'on est protégé toute sa vie. Et une de nos difficultés, je pense aussi bien...
Tout à fait, même au Maroc.
Aussi bien en France que dans les autres pays francophones, c'est que autant la vaccination du petit est correcte, autant les vaccinations des adultes est franchement moins bonne, et la vaccination des adolescents est pas bonne. Donc, on a besoin de rappels toute sa vie contre le diphtérie.
Alors justement, si on prend diphtérie, tétanos, polio, c'est un rappel tous les combien de temps?
Alors, le calendrier vaccinal français prévoit une vaccination dans la première année de vie, puis une vaccination à 6 ans, puis à 11 ans, puis à 25 ans, et ensuite tous les 20 ans. Donc c'est pas grand-chose. Ça, c'est vrai pour le diphtérie, le tétanos, la polio, et pour être simple, en partie pour la coqueluche. D'accord? Pour la rougeole, oreillon, rubéole, on est protégé à vie. Dès qu'on a reçu ces deux doses, c'est à vie. Pour l'hépatite B, pour l'immense majorité des gens, la protection est à vie. Et pour le papillomavirus qui est arrivé il y a quelques années, aussi, quand les adolescents sont vaccinés, les données qu'on a aujourd'hui font que la protection aux 10 ans est identique à la première année. Et on peut penser, on n'a pas de preuve puisque ce vaccin n'a pas 40 ans, et nouveau, que ça protège probablement toute la vie. Donc finalement, la politique de rappel, c'est surtout diphtérie, tétanos, polio et coqueluche.
Il y a une polémique en ce moment, vous l'avez commencé à l'évoquer en France, entre autres sur la question de la disponibilité d'un certain nombre de vaccins. Il y a apparemment des ruptures de stock sur des vaccins d'été polio.
Alors, En fait, les vaccins qui sont en rupture de stock, ce sont les vaccins qui contiennent essentiellement la valence coqueluche. Pourquoi ? Eh bien, parce que finalement, les fabricants de vaccins dans le monde sont extrêmement peu nombreux. Hein. Les noms sont connus. Certains sont français, d'autres sont américains, d'autres sont anglais. Bon. Et ils répondent à une demande mondiale. Aujourd'hui, par exemple, l'Inde, et d'où vous savez que le nombre d'enfants qui peuvent naître en Inde tous les ans, a décidé de se lancer dans une politique de vaccination contre la coqueluche extrêmement importante. Les Américains ont décidé de remettre des vaccins coqueluche supplémentaires, et ainsi de suite. Donc il y a une demande
de plus en plus forte, c'est ça qui expliquerait la pénurie.
En sachant que pour préparer ce type de vaccin combiné, il faut minimum 18 mois à 2 ans. Parce que les processus de fabrication des vaccins sont extrêmement longs, c'est l'objet de contrôles multiples parce qu'on ne peut tolérer aucune erreur de fabrication, les contrôles sont vraiment multiples, et de ce fait que entre le moment où la chaîne commence et le moment où elle finit, pour certains vaccins, les plus courts, c'est la grippe, on connaît, c'est quelques mois, mais pour les autres, on est plutôt en proche de l'année, voire un an et demi, que pour le reste. Donc dès qu'il y a un changement de politique vaccinale dans le monde, la demande peut exploser, et le temps que on rattrape ces retards-là, on se retrouve dans une situation de déficit. Ça, c'est la cause numéro un
de cette pénurie.
Le deuxième point, c'est que les vaccins ont des contrôles multiples. Et dès qu'un lot a le moindre problème de fabrication, il va à la poubelle. D'accord ? Et donc, on peut se retrouver sur ces grandes usines dont certaines sont en France, d'autres sont en Irlande, d'autres sont
En fait, la question que j'avais envie de vous poser, quoi, c'est cette pénurie, elle n'est pas organisée, parce que c'est la crainte qu'on entend, par l'industrie pharmaceutique, pour privilégier un vaccin qui, lui, coûtera plus cher et couvrira plus de maladies. Est-ce que ce n'est pas ça ? C'est une inquiétude qu'il y a.
Si, si. Alors, c'est en partie pas vrai, mais en partie à partir de la pénurie, par exemple, de la valence coqueluche, les industriels vont faire des choix pour privilégier les vaccins qui probablement sont les plus rentables pour eux.
Donc c'est pas complètement faux.
Ce qui n'est pas complètement faux, c'est que la carence en coqueluche existe. Donc, ils vont plutôt mettre les vaccins, cette valence coqueluche dans les vaccins qui ont le plus grand rendement.
Vous agace dans cette polémique, parce qu'on sait, on peut le dire, qu'il y a une pétition qui tourne en ce moment, ce qui vous agace le plus, c'est la remise en cause de la vaccination. Si sous prétexte d'expliquer ce problème qu'il peut y avoir de pénurie, de remettre en cause l'intérêt de la vaccination.
Bien sûr. Ouais. Et comme dans toutes les polémiques, il y a une partie de ce qui est dans ces textes qui est une fraction de la vérité, et puis le reste après un délire anti-vaccinal habituel. Et dans cette polémique, il y a tous les poncifs des anti-vaccinaux sont dedans. Il n'y en a aucun qui est absent.
Ça, d'accord. Vraiment. Et donc, pour rassurer nos auditeurs, se faire vacciner ses enfants, ce n'est pas dangereux pour les enfants, parce que la question derrière, c'est ça.
Ah ben, non seulement ce n'est pas dangereux, mais c'est
bénéfique.
Un bénéfice absolument énorme. Il y a peu de choses qui ont un rapport bénéfice-risque aussi important que la vaccination. Et c'est des rapports qui sont souvent à 1 sur 1000, à 1 sur 10 000, etc. Donc non, il faut faire vacciner les enfants, et sinon, tous les pays qui ont arrêté pour des raisons de guerre, pour des raisons d'effondrement de structures,
les ravages, par exemple,
la Russie avait arrêté la vaccination diphtérie juste après l'effondrement du mur de Berlin. En quelques mois, la diphtérie avait fait des milliers de morts.
Donc l'intérêt de la vaccination, si vous voulez bien, on y revient dans 3 minutes, hein, juste après les informations, pour continuer à parler de l'intérêt de cette vaccination.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance, de l'intérêt de la vaccination à l'occasion d'un congrès de la Société française de pédiatrie et de l'Association des pédiatres de langue française qui se déroule en ce moment à Tours. On en parle justement en direct des studios de France Bleu Touraine avec le docteur Robert Cohen, qui est coordonnateur du réseau d'information sur les vaccins, Infovac. Il est pédiatre, infectiologue au CHU de Créteil. Avec lui également le docteur Saïd Afif, qui est président d'Infovac au Maroc et vice-président de l'Association des pédiatres de langue française. Et vous pouvez bien sûr sûr, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Juste avant les informations, donc on était en train de parler de l'importance, de l'intérêt de la vaccination, de ce que ça avait permis à la fois d'éliminer comme maladie, mais aussi quand on arrête justement de vacciner, la résurgence de certaines maladies. Juste un petit mot, docteur Saïd Afif, est-ce que les polémiques qui peuvent exister en France arrivent jusqu'au Maroc, où les Marocains sont plutôt des gens convaincus de l'intérêt de la vaccination ?
Non, ils nous parasitent un petit peu, ils arrivent au Maroc, puisque on a l'internet, comme disait Robert Cohen, et on est francophone, et ça nous pose problème, surtout quand les autorités sanitaires françaises ne montent pas au créneau, parce que chez nous, on fait la demande tout de suite au ministère de la Santé, puisque c'est lui qui a toutes les informations, toutes les données, pour répondre à ces allégations. Parce que, comme vous le savez, pour que ce soit pour les vaccins ou pour n'importe quel médicament, il y a une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Alors si un vaccin est dangereux, il faut l'enlever. Mais il ne faut pas laisser la polémique enfler. Et c'est ce qu'on reproche, par exemple, à notre voisin et ami, la France.
Docteur Robert Cohen, vous trouvez effectivement que les autorités françaises ne sont pas assez fermes sur l'importance, l'intérêt des vaccins ?
Pour le moins, elles sont pas très réactives, vous me l'accorderez. on va utiliser un mot modeste, et effectivement, ça pose un vrai problème aujourd'hui, parce que on est dans une société médiatique, de l'instantanéité, où il faut répondre très très rapidement aux polémiques. En sachant que, par exemple, si on prend une des dernières, il y a aucun élément nouveau. Il suffit de reprendre les éléments que l'État confirme son engagement vis-à-vis de ça. Il n'y a pas d'élément nouveau dans ces polémiques-là. C'est que des poncifs des anti-vaccinaux qui sont ressortis, exacerbés par deux problèmes, qui sont, un, l'augmentation du coût des vaccins. C'est clair, les vaccins augmentent de prix. Plus en plus de vaccins dedans, et il y a de plus en plus, on protège de plus en plus de maladies. Et deux, ce qu'on a signalé tout à l'heure, la carence en vaccins, pour certains types de vaccins en France, qui crée de grosses difficultés. Mais je pense que la voix de l'État est extrêmement importante. Bon, il est vrai que le Premier ministre a confié une mission à Madame la députée Sandrine Hurel sur ce sujet-là, qui devrait rendre en juillet un rapport, mais on a peur que ce rapport-là termine un peu comme les autres. Je ne parle pas sur la vaccination, des rapports en général.
C'est-à-dire qu'on n'en parle plus. Les auditeurs sont nombreux à appeler pour vous poser des questions. Alors, pas forcément d'ailleurs sur la vaccination. On a Allegra qui nous appelle du Congo-Brazzaville. Allegra, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute, je crois que vous avez une petite fille de 6 mois.
Oui, elle a 6 mois et depuis qu'elle est née, elle est souvent enrhumée. Nous avions été reçus au CHU de Brazzaville deux fois pour ponctionner. Mais c'est perdu.
Alors la ligne téléphonique est vraiment très mauvaise, Allegra. Il faut que vous parliez vraiment bien près du téléphone. Ce que vous dites, c'est que vous êtes allé plusieurs fois en soins intensifs au CHU de Brazzaville parce que votre petite fille avait des bronchiolites, c'est ça ?
Oui.
Et aujourd'hui, ça va comment ?
Ben aujourd'hui, c'est toujours le rhume qui continue, c'est persistant. Bon, à la maison, nous avons des séances physiologiques, mouches bébés.
Et vous vous demandez un peu, je suis désolée parce que la ligne vraiment téléphonique est très mauvaise et on a du mal du coup à comprendre, vous demandez un peu quelle est la cause de ces bronchiolites répétées. Est-ce qu'il y a des conséquences négatives à l'utilisation régulière ou à la fois de suppositoires, de sérums physiologiques, voilà. Et comment faire finalement pour se débarrasser définitivement de ces bronchiolites ? C'est quelque chose de fréquent, docteur Robert Cohen ?
Oui, c'est très fréquent. Et globalement, c'est pas inquiétant parce que la quasi-totalité de ces enfants, quand vous les reprenez à 2, 3 ans, 4 ans, ils vont très bien. La raison est que quand un enfant naît, il naît avec les anticorps de sa mère, il est protégé pendant quelques mois, et puis après, il affronte le monde extérieur avec ses microbes, ses virus, etc. Et il doit se défendre, il doit constituer son immunité contre ces différents virus pour se constituer un capital d'anticorps, un capital immunitaire qui lui permet, quand il est plus grand et adulte, de bien se défendre. Donc ces maladies sont presque des maladies obligatoires de la petite enfance. Il faut, par des examens très simples, vérifier que cet enfant n'a pas d'anémie, n'a pas de déficit immunitaire particulier, mais très rapidement, on arrive à la conclusion qu'on est dans l'acquisition d'une immunité contre les différents virus qui doivent nous infecter. La seule chose qui est dangereuse, c'est justement de surutiliser des médicaments, parce que eux ne sont pas sans effet indésirable. Ces maladies vont guérir toutes seules, il y a besoin de soins relativement simples. On recontrôle par une prise de sang toute simple qu'il n'y a pas de carence en fer, il n'y a pas d'anémie importante, et on a assez d'anticorps et de globules blancs. Et puis après, on demande aux parents de la patience, parce que la nature va faire que ça va se régler. On est d'autant plus, pour rejoindre le sujet de tout à l'heure, c'est que les vaccins aujourd'hui nous protègent de l'immense majorité des maladies graves. L'immense majorité des maladies infectieuses graves sont prévenues par les vaccins.
Donc les autres sont moins graves, c'est ça que vous voulez dire?
Les autres sont moins graves et on a besoin de se constituer des défenses immunitaires au fur et à mesure du temps.
Je vais ajouter juste que c'est vrai, le sérum physiologique, bon, il n'y a pas de mal à l'utiliser. Et puis que le mode de garde influe. Ça, c'est...
La garde en collectivité génère plus de... on attrape plus de microbes, c'est ça?
Et le nombre d'enfants qu'il y a autour. Pour un enfant,
c'est ça.
Et ces problèmes de bronchiolite sont aussi très fréquents au Maroc?
Oui, tout à fait. Parce que, on est dans une société où maintenant les deux parents travaillent, il faut mettre les enfants à la crèche et tout ça, donc le mode de garde influe peu et les grands-mères n'ont plus assez de temps.
Donc vous rassurez, elle est grave, vous lui dites simplement un peu de patience et sa petite fille est en train de générer des anticorps à toutes ces pathologies. Oui.
S'assurer pour qu'elle va voir que ça n'a pas d'impact, s'assurer qu'elle a une bonne prise pondérale et puis au niveau de la taille, et ça c'est le
point important.
Le point le plus important.
Merci beaucoup Allegra. On a Vincent qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Vincent, bonjour.
Oh, bonjour Claire.
On vous écoute.
En fait, j'ai des petites questions à poser. Quelle alimentation faut-il adopter pour éviter la diarrhée, surtout au moment de la dentition?
Alors c'est ça, quelle alimentation il faut donner à un enfant pendant la période où il fait ses dents et pour éviter les problèmes de diarrhée? Et je crois que vous vouliez demander aussi s'il existe des vaccins, juste?
Oui, la deuxième question, existe-t-il un vaccin contre la diarrhée et le rhume?
Alors, docteur Robert Cohen.
Alors, il est clair que dans la première année de vie, l'alimentation qui prévient le mieux les diarrhées, c'est l'allaitement maternel. Ça, c'est vraiment, c'est le complément presque indispensable à la vaccination pour la prévention des maladies infectieuses et puis pour bien d'autres choses en plus. Donc, plus les enfants sont allaités, moins ils tombent malades, non seulement sur le plan digestif, mais sur le plan respiratoire. Le deuxième point pour prévenir les diarrhées, l'hygiène de base, en particulier le lavage des mains, joue un rôle important dans l'incidence. Et le troisième point sur lequel vous assistiez à poser, c'est la gastroentérite. Il y a un nombre considérable de virus et de bactéries qui peuvent donner des gastroentérites. Aujourd'hui, on a un vaccin contre le plus important d'entre eux en termes de risque d'hospitalisation, de décès et de déshydratation, qui est le vaccin contre le rotavirus. Celui-là joue un rôle important, puisque là encore, il tue des centaines de milliers d'enfants dans le monde, dans les deux premières années de vie, et un vaccin existe. Mais il ne prévient que contre cette gastro-entérite, et pas parfaitement. Son taux d'efficacité varie d'un pays à l'autre, en fonction des souches, en fonction du contexte, mais grosso modo, il est entre 50% d'efficacité et 80% d'efficacité, ou 90% d'efficacité. Il joue un rôle extrêmement important. Et par exemple, au Maroc, il est recommandé en routine depuis maintenant 2 ans. Je me trompe.
Depuis 5 ans.
Est-ce qu'on n'est pas typiquement dans un vaccin qui est très intéressant et même indispensable dans les pays en développement, peut-être moins dans les pays développés où il y a quand même un accès aux soins?
C'est sûr que si on passe le poids de la mortalité, il n'est pas le même par déshydratation en fonction du contexte socio-économique. Ça, c'est clair. Mais si je prends les chiffres français, parce qu'ils sont, ce sont ceux de l'Institut National de Veille Sanitaire, Ça représente à peu près 150 000 à 200 000 consultations par an, ce qui n'est pas négligeable. Ça représente 15 à 20 000 hospitalisations et ça représente entre 10 et 20 décès par an. C'est pas énorme,
quand même,
hein,
mais quand même.
Mais quand même, c'est quand même ça, parce que ce sont des virus que on ne peut pas complètement prévenir. Ils sont tellement contagieux qu'il y a un moment ou un autre, à 2 ans, 100% des enfants ont attrapé le rotavirus. Bien entendu, l'immense majorité va guérir tout seul, et puis le reste ne va pas le faire et peut faire des complications.
Pour en finir avec la question de Vincent, donc on comprend bien l'intérêt là de la vaccination contre le rotavirus, mais sur la question de la diarrhée due un peu à la dentition, à la période où les enfants font leurs dents, ça c'est un peu inévitable, c'est ça ?
Absolument, ça fait partie des processus de maturation normale, et une fois qu'on a assuré le sein, une hygiène correcte, et la vaccination contre le rotavirus, le reste, on peut pas faire grand-chose.
Je vais juste ajouter une chose qui a permis quand même de sauver des vies de par le monde, ce sont les sels de réhydratation. Ça, on oublie toujours, et donc, dès que on a des sels de par la fréquence et de par la consistance qui sont un peu plus importantes, il y a un réflexe, c'est de donner des sels de réhydratation, et comme viennent de le dire, ça s'arrange au bout de quelques jours, sans qu'il y ait de perte de poids, et donc ça permet d'éviter la déshydratation.
C'est ça qui est important, hein, éviter la déshydratation chez les petits qui peut se faire très vite. Merci Vincent, en tout cas, pour votre question. On a Ruffin qui nous appelle de République Centrafricaine. Ruffin, bonjour.
Bonjour, bonjour Claire.
On vous écoute, Ruffin.
Oui, il y a un enfant, 4 ans,
Alors la ligne téléphonique est encore très très mauvaise. On a vraiment un problème aujourd'hui avec les lignes téléphoniques. Je vais me permettre de répéter votre question. Vous avez un enfant de 4 ans, ça fait 2 semaines qu'il urine au lit toutes les nuits, et vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème. J'imagine que c'est des questions qu'on vous pose très souvent, aussi bien Dr Cohen que Dr Afif.
Oui, tout d'abord il faut être sûr que ce n'est pas un diabète, donc il faut s'il boit beaucoup, il urine beaucoup, il faut donc faire une analyse. C'est très simple. Une glycémie à jeun le matin, et on est vite.
Donc ça vaut le coup de consulter.
Oui, bien sûr, ça vaut le coup de consulter.
Donc, souvent, il y a une raison médicale. Quand ça a 4 ans, il n'y avait pas. Ça peut être un diabète, ça peut être une infection urinaire, ça peut être d'autres choses. Donc, l'examen d'urine qui est extrêmement simple, à base de bandelettes, qui n'a absolument aucun coût. Permet d'avancer, mais de temps en temps, il y a des enfants qui ont des énurésies secondaires, c'est-à-dire ils ont des pertes d'urine de la nuit, qui s'installent vers 3-4 ans et puis qui pérennisent. Bon, là, ça, d'abord, jusqu'à 6 ans, il n'y a aucun traitement qui est nécessaire parce que ça va se maturer avec le temps. Et puis,
il peut y avoir des accidents de parcours, quoi, en gros.
Voilà, des accidents de parcours. Et quand ça dépasse 6 ans, et à 4 ans, on ne fait rien autre que de ce que vient conseiller Saïd Afif, c'est-à-dire, bon, faire un petit examen de ça, et après 6 ans, on peut faire une prise en charge médicale, mais c'est largement après 6 ans, parce que jusqu'à 6 ans, généralement, on n'a pas d'intervention médicale à proprement parler.
Mais en tout cas, le conseil que vous donnez à Ruffin, c'est vraiment quand même d'aller consulter.
Oui.
Important de voir s'il n'y a pas une maladie derrière.
Exactement.
Il n'y a pas une maladie derrière, et puis sur le plan psychologique, est-ce qu'il n'y a pas une venue d'un enfant, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème qui s'est passé et ça vient choc, aussi, oui, au niveau de l'interrogatoire avec le pédiatre.
Oui, c'est ça, des questions que vont pouvoir poser le pédiatre. Merci Ruffin, bon courage à vous. On va prendre une dernière question avec Nen qui nous appelle du Sénégal. Nen, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute.
Oui, moi je voulais avoir des conseils.
Alors parlez bien près du téléphone, parce qu'à la ligne téléphonique là en ce moment on a vraiment des soucis, donc il ne faut pas être sur haut-parleur et vous parlez bien près du téléphone.
Ok Claire, bonjour.
Bonjour, allez-y.
Je voulais savoir des conseils par rapport à mon bébé de 5 ans, qui est toujours enrhumé, et l'écoulement nasal aussi. Je l'ai amené chez le pédiatre, mais rien n'a changé, il est toujours enrhumé. Je vous remercie.
Alors voilà, un enfant de 5 ans, hein, si j'ai bien compris, qui est toujours enrhumé, qui tousse, qui a le nez qui coule. Vous l'avez emmené chez le pédiatre. Je crois quand même que votre pédiatre vous a dit que c'était un peu dû à la poussière. Mais vous vous demandez un peu ce que vous devez faire. Docteur Robert Cohen.
Alors, pour répondre, la 5 ans, c'est plus tout à fait, c'est plus un nourrisson, donc il faut déjà commencer à se poser des questions. Qu'un enfant soit enrhumé en permanence avec 5 ans, il y a différentes causes possibles, donc c'est, et parmi une des premières, il y a bien entendu l'allergie. Et ces enfants-là, quand ils sont enrhumés en permanence, il faut vérifier qu'ils n'ont pas d'allergie. Et la cause la plus fréquente d'allergie, une des causes en tout cas, c'est l'allergie à la poussière, éventuellement au pollen, aux moisissures, etc. Donc effectivement, à 5 ans, c'est pas tout à fait normal d'être en permanence enrhumé. Donc une fois qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas d'allergie, bon, s'il y a une allergie, on la prend en charge, et maintenant, des progrès ont été considérables dans ce domaine-là. Une fois que c'est pas une allergie, effectivement, à 5 ans, on a le droit de se poser des questions et d'essayer de regarder s'il n'y a pas une autre cause que l'allergie. De temps en temps, effectivement, on peut retrouver que ces enfants ont des cils qui sont au niveau des voies aériennes qui ne marchent pas bien. On peut retrouver le fait qu'ils manquent d'anticorps. Il y a 5 ans, effectivement, ça vaut le coup d'être exploré et commencer à rechercher une allergie.
Docteur Afif, ces questions d'allergie, elles sont aussi en forte augmentation au Maroc ?
Tout à fait, parce que là, vous allez avoir bientôt une grande réunion sur l'environnement, et donc, avec toute la pollution qu'il y a, et on a noté, par exemple, à Casablanca, qu'il y a une flambée des maladies allergiques à cause de la pollution, donc de 10-15% sur ces dernières années. Donc ça devient de plus en plus important, et c'est pour cela qu'il faut qu'on fasse attention à notre environnement, et on attend avec impatience ce que va
donner
va
la conférence sur le climat, probablement au mois de décembre, voilà, à Paris. On arrive à la fin de cette émission. Peut-être, docteur Afif, un mot de conclusion, et puis je vais vous laisser retourner à votre congrès.
D'accord. De toute façon, là, comme l'a dit Robert Cohen, l'intérêt de la vaccination est indéniable. Et ça se voit plus dans nos pays que chez vous. Par exemple, il y a un vaccin qui, ici, il est fait juste au niveau de certaines collectivités, qui est le BCG, alors que nous, c'est un vaccin qui est indispensable.
Un vaccin contre la tuberculose, hein.
Voilà, il ne protège pas contre la tuberculose à 100%, mais il protège quand même contre les formes les plus graves de la tuberculose. Donc, s'il y a un message à donner, il faut qu'on défende tous la vaccination, mais qu'on puisse savoir écouter et puis répondre aux problèmes que vous avez évoqués, la pénurie et tout ça. Il faut qu'on soit vigilant.
Docteur Robert Cohen, un mot de conclusion ?
Oui, tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire toutes ces polémiques que vous entendez, imaginez-vous un monde sans vaccin aujourd'hui, avec des gens dans la rue qui se baladeraient encore avec des poliomyélites, avec des séquelles de poliomyélite, des hôpitaux où des gens continueraient à mourir de diphtérie, de rougeole, etc. Tout ce bruit-là, finalement, ce sont des reculs de société assez considérables, parce qu'on n'a pas vu tout le bénéfice qu'on a tiré de cette avancée considérable qu'a été la vaccination.
Merci beaucoup, hein, en tout cas, à tous les deux, docteur Robert Cohen et docteur Saïd Afif, d'intervenir. Je vous laisse retourner à ce congrès de la Société française de pédiatrie et de l'Association des pédiatres de langue française qui se déroule en ce moment. Merci à France Bleu Touraine qui nous a permis d'établir cette liaison. Et on va terminer avec le docteur Catherine Solano.
Priorité santé sur RFI.
Et exceptionnellement, pour un mercredi, on vous retrouve. Bonjour docteur Catherine Solano.
Bonjour Claire.
Alors, vous allez nous parler du rôle des pères dans l'éducation à la sexualité. Vous parlez souvent de sexualité. Aujourd'hui, comme nous parlons des enfants, vous allez justement évoquer le rôle des pères dans l'éducation à la sexualité. J'ai l'impression que souvent, d'ailleurs, ils ne sont pas très présents à ce niveau-là, non ?
Ben non, justement. Alors moi, des fois, j'interviens dans des collèges où il y a des enfants d'entre 11 et 15 ans, et je demande aux jeunes, est-ce que quelqu'un a sa maman qui lui a déjà parlé de sexualité ? Et à ce moment-là, toutes les filles lèvent le doigt. Ensuite, je dis, est-ce qu'il y a des personne à qui leur père a parlé de sexualité, personne ne lève le doigt, sauf environ un garçon pour 3 classes. Et donc, ils sont vraiment très absents, effectivement. Et c'est bien dommage.
Alors, que peut faire un père pour améliorer, justement, cette éducation à la sexualité?
Alors, déjà, je vais parler des pères par rapport à leurs filles. Donc, ce qui est très important, déjà, vous allez voir que c'est facile à faire. Donc, vous pouvez tous le faire, parce que c'est pas très sexuel, quand même. C'est leur dire qu'elles sont belles et dignes d'être aimées. Parce que pour une fille, son père, c'est le premier homme de sa vie. Et si elle se sent aimée, respectée, admirée, elle va s'épanouir comme une fleur. Elle va avoir confiance et elle se dira « Moi, je peux être aimée par un homme qui me respecte. » Donc, en pratique, il faut qu'un père dise à sa fille « J'ai de la chance d'avoir une belle fille comme toi. » Alors, on pourrait me dire « Bon, mais la beauté physique, c'est quand même pas l'essentiel dans la vie. » Peut-être, mais une fille a besoin de se sentir suffisamment belle pour qu'elle puisse être aimée et qu'elle ait une estime d'elle suffisante. Alors, ça suffit pas, bien sûr, pour un père de dire à sa fille « Tu es belle. » Il faut aussi lui dire qu'elle est une fille formidable. Le mettre en valeur ses qualités, lui dire « Tu es intelligente, tu es douée dans tel ou tel domaine, tu sais écouter, tu sais réconcilier les gens, etc. Tu sais conseiller. » Trouver toutes ses qualités.
Et finalement, ça revient à dire et à montrer à ses filles et à ses garçons qu'on les aime.
Oui, ça, c'est vrai, mais pas seulement, parce que montrer l'amour, c'est important, parce qu'on va se dire « je suis digne d'amour », mais dire à quelqu'un, à sa fille ou à son fils d'ailleurs, « tu as telle qualité d'organisation, de tempérament et ou de caractère », ça va aussi augmenter sa confiance en lui ou en elle. Et donc, votre fille peut se dire « oui, c'est vrai, j'ai telle ou telle qualité », et c'est différent de l'amour, parce que l'amour, c'est souvent inconditionnel, et on voit pas forcément les qualités et les défauts. Et donc, c'est donner ses qualités à quelqu'un, c'est dire « même si je t'aimais pas, j'apprécierais tes qualités ».
C'est aussi vrai pour les garçons.
Ah bah oui, c'est vrai pour les garçons. Et pour les garçons, c'est important de la part de la mère, parce que c'est la première femme de la vie de son fils, de lui dire la même chose, tu es beau et aimé.
Alors à côté de cette certitude de pouvoir être aimé, apprécié, quand on se place au niveau de l'éducation sexuelle plus concrète, que peut faire un père pour ses enfants?
Alors pour sa fille toujours, je trouve qu'il faut qu'il lui dise comment se comporter avec les garçons. C'est-à-dire... lui dire tu mérites d'être respecté et il faut pas que tu te mettes en danger, par exemple quand un garçon a bu. Lui expliquer aussi que si un garçon l'aime, il lui dira peut-être, écoute, si tu m'aimes, prouve-le-moi, fais l'amour avec moi. Et qu'il faut absolument qu'elle lui réponde, eh ben toi, si tu m'aimes, tu peux attendre que je sois prête. C'est hyper important.
Et pour un garçon, que doit-il dire?
Alors, il y a plein de choses à dire à un garçon aussi. Je pense qu'il faut, alors moi qui suis une femme, je vais dire premièrement lui apprendre le respect. Tu es un homme, il faut que je sois fière de toi et que tu respectes les jeunes filles et les femmes, et que tu deviennes un homme en qui une femme aura confiance. Et puis ça c'est hyper important. Le deuxième message, c'est au sujet de la contraception. Je trouve qu'il faut qu'un père dise à son fils, mon fils, quand tu auras une relation sexuelle avec une femme, tu sais que ça peut mettre en route une grossesse. Et elle ne doit pas être la seule responsable de ça. Vous êtes deux à faire l'amour, vous devez être deux à prendre votre responsabilité. Donc, tu dois t'occuper de la contraception, tu dois y penser, proposer un préservatif, lui demander si elle prend la pilule, si elle a un stérilet, un implant, etc. Tu dois lui demander si cette contraception lui convient et qu'elle se sent en sécurité avec. Tu dois lui dire que si elle a besoin de toi à ce niveau-là, tu es là. Tu dois l'accompagner chez le médecin pour choisir ensemble la contraception parce que tu es responsable. Et tu dois lui parler de ce qui se passerait s'il y avait une grossesse imprévue, parce qu'on doit savoir, on doit être responsable ensemble et savoir à l'avance ce qu'on ferait si une grossesse s'annonçait alors qu'on ne l'attendait pas.
Et sur la pratique sexuelle, est-ce qu'un père peut dire des choses à son fils?
Alors oui, il peut lui dire qu'une femme, c'est pas comme un homme, qu'elle a besoin de davantage de caresses, de baisers, de câlins, et que s'il est attentif et qu'il sait prendre son temps, ben il saura rendre une femme heureuse. Mais c'est pas évident de rentrer dans les détails sexuels, parce que ça peut être un petit peu, ça peut le mettre mal à l'aise, son fils. Et alors, pour une fille, évidemment, c'est pas très évident pour un père de parler de conseils sexuels techniques à sa fille, parce que ça serait vraiment intrusif pour une adolescente.
Et comme d'habitude, on retrouve tous ces conseils sur le blog de l'émission. Vous trouverez les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique priorité santé. Et on a Rodrigue qui nous appelle de Kinshasa en RDC et qui a une question à vous poser. Rodrigue, on vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Bonjour.
Allez-y, parce qu'il nous reste très peu de temps. On arrive dans 2 minutes à la fin de l'émission. Donc allez-y.
Ok, je souffre d'une varicocèle. En fait, nous avons fait un examen et spermogramme et on a trouvé que j'ai oligospermie pervers. Et le docteur avait dit l'oligospermie provient de 2 causes. À la fois, j'ai des infections au niveau de la spermatozoïde ou j'ai la varicocèle. Et on avait fait aussi les spermocultures. Je n'ai aucune infection. Donc, ils ont dit que j'ai la varicocèle, donc on doit m'opérer. Si on m'opère, j'aurai plusieurs spermatozoïdes.
Et là, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, docteur Solano.
Alors déjà, effectivement, les varicocèles, c'est des varices qui sont au niveau des testicules. Et donc, le problème, c'est que ça réchauffe les testicules et que les spermatozoïdes, ça supporte pas la chaleur. Donc, effectivement, on opère ces varices pour que les testicules deviennent plus frais et que les spermatozoïdes se remettent à être fabriqués. Donc, c'est important de faire une telle opération. C'est pas une grosse opération. Et ce qui est important, c'est de refaire, bien sûr, un spermogramme après. Mais de le refaire plusieurs fois parce qu'il faut parfois du temps pour que les spermatozoïdes redeviennent normaux.
C'est ça, donc après l'opération, ça peut revenir.
Voilà, ça peut revenir, mais c'est jamais certain parce que c'est une cause, mais il y a peut-être d'autres causes, comme vous parlez d'une infection, mais en tout cas, il faut essayer d'agir sur la cause. Alors, il y a une autre chose, c'est qu'en France, on peut faire des fécondations in vitro, c'est-à-dire des ICSI, ça s'appelle, c'est-à-dire on va choisir un spermatozoïde parmi tous ceux que vous avez. Il y en a plein qui sont pas bons, mais une oligospermie, ça veut dire qu'il y en a quand même
quelques-uns qui sont
ils sont
bons, on va prendre
un bon spermatozoïde, le mettre dans un ovule et puis ça peut faire une grossesse.
Merci beaucoup, merci Rodrigue pour votre question. Demain, on parlera de la lutte contre l'excision au Mali avec un reportage de David Bachet. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.